Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Vie Devant Soi. Toutes mes excuses, effectivement, pour cette voix un peu troglodyte et qui va nous emmener pas loin puisqu'on va s'intéresser cet après-midi à la forêt. Promenons-nous dans les bois, on va parler de sylvothérapie, de ces arbres qui nous veulent du bien. Le Japon, l'Italie, les pays du Nord sont depuis longtemps convaincus. La France y met enfin aussi. On en parle avec nos invités, Laurence Mons, naturopathe et auteur de ces arbres qui nous veulent du bien aux éditions Duno. On sera également avec Éric Brisebard, accompagnateur en forêt. Vous allez voir que c'est un diplôme, auteur d'un bain de forêt, cette fois-ci aux éditions Marabout. Et puis bien sûr, comme tous les après-midi, vous retrouverez tous vos rendez-vous. Dans un instant, la voix de Cristal d'Elisabeth Assayag qui aujourd'hui nous parle d'empathie et une étude qui vient secouer toutes nos convictions. Et puis on terminera l'émission avec Anne Cazobon. Bonjour Anne.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Alors on va continuer à se construire malgré nos blessures. Hier, vous nous parliez de la première de ces blessures, l'abandon. Et aujourd'hui, ça ne s'arrange pas.
Oui, on poursuit notre exploration de ce best-seller de Lise Bourbeau, la québécoise, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et donc aujourd'hui, je vous parle de rejet.
N'hésitez pas à nous suivre, à suivre tous vos rendez-vous bien sûr sur europe1.fr en direct ou encore en podcast. Vous pouvez nous réécouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également réagir pendant l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag LVDS ou encore sur Facebook. La vie devant soi du mardi, un peu à faune, mais c'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
Comme tous les après-midi, on commence par le à la une avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous et bonjour Isabelle.
Alors vous nous parlez d'une étude étonnante. Si on est doué pour l'empathie, sachez que cela n'est pas lié à notre éducation. Papa et maman n'y sont pas pour grand-chose. Notre capacité d'être empathique est liée directement à la génétique. Expliquez-nous tout ça.
D'abord, je vais vous rappeler ce que c'est l'empathie. C'est cette capacité à nous mettre à la place de l'autre tout en restant nous-mêmes. C'est une sorte d'entraide. Elle est le plus souvent émotionnelle. On éprouve de la compassion pour l'autre. Et c'est ce qui fait que l'on se dévoue spontanément au bien-être des autres. Et cela nous fait du bien. Et d'ailleurs, c'est ce que démontre Joan Halifax. Elle est bouddhiste roshi. Elle travaille dans des hospices et dans des prisons. Et lors d'une conférence TED, elle partage ce qu'elle a appris sur la compassion et sur la nature de l'empathie.
I want to address the issue of compassion.
Je veux adresser la question de la compassion. La compassion a beaucoup de facettes. Certaines sont violentes, certaines sont colériques, certaines sont fragiles, sages. Le Dalai Lama a dit « L'amour et la compassion sont des nécessités. Ce n'est pas un luxe. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. » Nous savons maintenant, grâce aux neurosciences, que la compassion a des qualités extraordinaires. Par exemple, une personne qui cultive la compassion en présence de souffrance, ils sentent cette souffrance beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Pourtant, ils reviennent à la normalité très rapidement. Cela s'appelle la détermination. Beaucoup pensent que la compassion nous vide, mais je vous le promets, c'est quelque chose qui nous illumine vraiment.
Voilà, la compassion et l'empathie nous remplit. Et donc face à cette empathie quasi automatique que nous avons tous, des chercheurs français de l'Institut Pasteur, de l'Université Paris Diderot et du CNRS, ainsi que des chercheurs britanniques de l'Université de Cambridge, ont démontré que notre capacité à ressentir de l'empathie serait en partie génétique. Elle ne serait donc pas le résultat de notre éducation et de notre expérience.
Alors, ce qui veut dire que partager et comprendre les sentiments de l'autre, ce serait inné.
Oui, reconnaître les sentiments de l'autre et avoir la faculté d'y apporter une réponse, ce serait naturel. Mais attention, ça se développe aussi en fonction de notre environnement. On a tous une prédisposition à l'empathie, mais elle est, oui ou non, stimulée dans notre éducation. Les chercheurs donc ont mesuré l'empathie des participants pendant 15 ans. Ils en ont déduit qu'elle était innée, notamment chez les femmes, qui sont en moyenne légèrement plus empathiques que les hommes. Cela s'explique par par la physiologie féminine. C'est ce que nous dit la psychologue Cécile Neuville.
Dans la personnalité, et j'ai même envie de dire dans le système hormonal féminin, donc c'est même biologique, effectivement, physiologiquement, les femmes développent un peu plus d'hormones liées aux émotions, à la gratitude et à l'empathie, c'est-à-dire l'hormone l'ocytocine, précisément, s'intéresse à l'attachement aux autres. Et c'est cette hormone-là qui, quand elle est produite, nous permet de nous mettre à la place des autres, de ressentir de l'empathie vis-à-vis des autres et donc de prendre en compte l'émotionnel de l'autre pour pouvoir agir en fonction, tout en écoutant sa propre émotion. Et donc les femmes produisent plus d'ocytocine que d'hommes, et en particulier donc l'empathie démesurée au moment de l'accouchement, de la grossesse, où il y a un pic d'ocytocine plus fort que habituellement.
Et développer l'empathie des uns et des autres, eh bien ça commence dès l'école, dès la petite école. L'empathie des professeurs d'école favorise la performance des élèves, c'est ce que révélait une étude de grande ampleur réalisée en Finlande.
Merci Elisabeth, on vous retrouve demain, et nous dans un instant on va continuer à parler de l'empathie, on va parler de sylvothérapie, mais là ce sont les arbres qui nous veulent du bien.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et cet après-midi, on parle de sylvothérapie, ces arbres qui nous veulent du bien, avec nos invités, Laurence Mons, naturopathe, auteur de « Ces arbres qui nous veulent du bien » aux éditions Duno. Et on est également avec Éric Brisebard, accompagnateur en forêt et auteur de « Un bain de forêt » qui va paraître demain aux éditions Marabout. Alors Éric, tout petit, vous tombez un peu dans la marmite de la forêt des Vosges, puisque ce sont vos premières balades, mais la forêt qui a changé complètement votre vie, c'est l'île de la Réunion. Pourquoi ?
Oui, en effet, en fait, c'est au cours d'un séjour, d'un trekking de 10 jours à l'île de la Réunion, où j'ai eu l'occasion vraiment de rentrer dans des forêts qui étaient préservées, quasiment des forêts primaires. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment impressionnant dans ces forêts-là. Et il faut que je puisse franchir le pas, passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne et pouvoir faire partager ce milieu au public.
Qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour obtenir ce diplôme ?
Pour obtenir ce diplôme, donc c'est un diplôme d'accompagnateur en montagne, il y a différents tests. Il y a un test probatoire qui est plus un test sur le terrain où on va faire une randonnée qui est assez longue. Il y a aussi des tests techniques sur du terrain varié pour évaluer un petit peu le style du guide, on va dire. Et puis des connaissances du milieu de la montagne et du milieu de la forêt notamment.
Alors vous êtes un guide comment ?
Écoutez, j'espère être un guide qui fait découvrir un maximum de choses à son public, en tout cas. Et vraiment, je me suis un peu spécialisé effectivement dans ces forêts primaires, ces forêts reculées, notamment les forêts de montagne, hein, puisque c'est là où il y a peu de monde qui va à la rencontre des arbres. Et les arbres sont assez majestueux, hein, parce qu'ils poussent dans des conditions météorologiques, vous pouvez l'imaginer, qui sont assez rudes. Et donc les arbres sont tout proches de la zone de combat, qui est un peu cette limite autour duquel, enfin en dessous duquel les arbres peuvent évoluer. Et donc ça donne des arbres qui sont vraiment majestueux.
Qu'est-ce qu'on appelle une forêt primaire, Laurence ?
Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas été touchée en fait par l'homme. Donc en France, malheureusement, il n'y en a plus. La dernière qu'on connaît en Europe, quasiment, c'est celle qui est en Pologne. Voilà, donc ils essayent de la préserver, mais ça semble assez difficile, malheureusement.
Pourquoi c'est difficile ?
C'est difficile parce que il y a beaucoup de constructions, tout ça. Il y a beaucoup de gens maintenant, et c'est vrai que ça complique un petit peu. Et la productivité et l'argent est souvent plus là que la santé et le bien-être de la forêt.
Qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt primaire qu'on ne trouve pas ailleurs ? Est-ce que c'est une ambiance ? Est-ce que c'est plus chargé en énergie ?
Oui, c'est plus chargé en énergie. La végétation est complètement différente. Il y a plus, elle est moins nettoyée. Quand on voit les forêts en France maintenues par l'ONF, notamment, elles sont très nettoyées, très aménagées, ce qui n'est absolument pas le cas d'une forêt primaire. Et l'énergie est effectivement très, très décuplée.
Alors vous adorez vous promener à travers le monde et à travers toutes les forêts. Vous avez fait partie de ces missions qui sont allées donc du côté du Japon. Je le disais tout à l'heure, en fait, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous sur la sylvothérapie, en particulier le Japon. Je crois que c'est 1982 où pour la première fois, on a reconnu officiellement les bienfaits de la sylvothérapie.
Alors ça date, en fait, la sylvothérapie est une pratique ancestrale. Après, il y a eu quand même les Russes avant le Japon, il y a eu quand même d'autres recherches qui ont été faites avant. Il y a eu les Russes, tout ça. Mais c'est vrai qu'en Asie, c'est très, très développé, notamment au Japon, puisqu'il y a environ 65% du territoire qui est boisé, alors qu'en France, il y a 30% du territoire seulement qui est boisé. Et ça fait partie de leur culture. Mais il y a aussi, effectivement, la Corée, hein, la Corée du Sud, notamment. Il y a le Népal, il y a les pays nordiques qui développent beaucoup ce genre de choses. Et puis ça a traversé les océans, puisque ça arrivait aussi aux États-Unis, où ils développent beaucoup la sylvothérapie aussi.
Alors 1982, Eric, c'est la première fois que l'on prend connaissance des travaux du professeur Kingley, qui a mesuré, donc là c'est mesuré, que quand on se promène en forêt, on a un abaissement du cortisol, qui est l'hormone du stress, un ralentissement du rythme cardiaque. Donc ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure de marche en forêt à peine, on se sent déjà beaucoup mieux.
Voilà, tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait au Japon, et c'est notamment pour ça qu'on parle beaucoup du Japon, c'est qu'il y a des médecins et des scientifiques qui se sont intéressés au Shinrin-yoku, donc au bain de forêt, et qui ont réussi à prouver scientifiquement les bienfaits de la nature. Alors qu'effectivement, en France, il y a eu des sanatoriums qui sont présents un petit peu partout, qui ont été présents un peu partout en France fin du 19e siècle, et on pratiquait déjà ces techniques de bain de forêt, sans pour autant aller identifier des études scientifiques, se raccrocher à des études scientifiques. Donc effectivement, le fait d'être en forêt, le fait de voir la forêt déjà, il a été prouvé que ça diminue le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress.
Alors en France, comme vous le disiez, début des années 1900, les scientifiques, les premiers chercheurs, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient chercher, mais ils se sont rendus compte par exemple que la qualité de l'air à Arcachon, dans les Landes, donc avec les résineux, quand on se promenait sous les résineux déjà, on en tirait un bénéfice immédiat pour notre santé.
Voilà, tout à fait. Donc il y avait justement un sanatorium justement qui se trouvait dans les Landes, et on emmenait donc les patients atteints de problèmes respiratoires, et notamment la tuberculose, dans ces forêts de résineux pour pouvoir respirer les phytoncides et les terpènes qui étaient émis par les arbres et qui amélioraient le système respiratoire.
Alors phytoncides, terpènes, on va voir avec vous deux ce à quoi ça correspond, puisque c'est bien sûr avec ces petites molécules que l'arbre nous fait du bien. On va voir qu'il n'y a que des avantages au bain de forêt, peu importe l'intensité de la marche. Le simple fait d'appuyer en marchant sur sa voûte plantaire améliore la circulation sanguine.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
On parle de sylvothérapie cet après-midi avec nos invités. Laurence Mons, auteur de Ces arbres qui nous veulent du bien aux éditions Duno. Le livre d'Éric Brisbard aux éditions Marabout va sortir demain. Un bain de forêt. Alors vous dites tous les deux que tout est bon à prendre dans la forêt, même la couleur, puisque le vert de la forêt, il résulte d'un mélange de jaune, qui est une couleur tonifiante, solaire et chaude, et en plus de la couleur bleue, qui est un peu l'ombre froide et apaisante. Donc en fait, quand on est dans la forêt, on est dans une sorte de cocon qui nous veut du bien. Laurence.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a dans le spectre des couleurs, on apprend ça en chromatothérapie, hein, quand on fait la naturopathie, eh bien, il y a des couleurs qui ont des fréquences, des ondes, en fait, qui, au niveau cérébral, modifie en fait les comportements. On voit par exemple dans les hôpitaux, les grands brûlés, on va les mettre dans des chambres bleues. Si on met les grands brûlés dans des chambres rouges, effectivement, le système nerveux va s'exciter et donc la personne aura beaucoup plus mal. Donc pour apaiser les gens, pour apaiser l'esprit, on va aller en forêt et on va voir cette chlorophylle qui rend ce vert superbe des feuilles, et donc l'esprit va être apaisé.
Alors se balader en forêt va titiller nos cinq sens, parce que non seulement il y a la couleur, on écoute la forêt, il y a toute une musique de la forêt que l'on peut percevoir, on va toucher du bois, vous recommandez l'un comme l'autre d'enlacer un arbre. Alors c'est vrai que quand on dit ça, ça fait très bisounours, enlacer un arbre, mais vous dites qu'on ressent effectivement cette espèce d'énergie vitale qu'il nous transmet, respirer donc ces odeurs et ces molécules, et vous dites aussi qu'on peut goûter la forêt. Goûter les mousses, les champignons, Eric ?
Oui, voilà, on peut même goûter aussi les feuilles, hein, les épines de sapin. Pour ma part, l'approche que j'ai de la sylvothérapie est vraiment une mise en éveil des sens. Donc je ne pratique pas la sylvothérapie comme une médecine énergétique ou quelque chose de spirituel. Vraiment, c'est aller dans la forêt, essayer de comprendre pourquoi on se sent bien en forêt. Donc on a parlé tout à l'heure de cet aspect cocooning, hein, le fait d'être en forêt, mais ça s'explique aussi parce que la forêt va réguler à la fois la température, à la fois la vitesse du vent, les troncs des arbres vont capter l'énergie solaire durant la journée qu'elles vont restituer pendant la nuit. Donc tout ça favorise un sentiment de bien-être en forêt. Et puis après, donc, à travers le toucher et les cinq sens hein, et le goût, donc on va pouvoir aller aussi goûter des feuilles d'arbres, des feuilles de, enfin des épines de sapin, et tout ça va vraiment permettre de sentir bien en forêt.
Alors vous n'êtes pas qu'accompagnateur en forêt, puisque vous êtes ce qu'on appelle un slasher. Le slasher, c'est celui qui a plusieurs métiers, et votre autre métier par rapport à la forêt, vous travaillez dans la finance au Luxembourg, et vous dites que le rythme de votre vie dans la finance est tel qu'il a fallu mettre en place l'équilibre par la forêt pour réussir à vous sentir toujours bien.
Oui, voilà, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que je suis un passionné de nature et de montagne en parallèle, et il s'avère qu'en 2010, j'ai eu ce besoin en fait de rééquilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et aussi aller faire ces bains de forêt en forêt pour diminuer mon stress, quoi, et améliorer mon bien-être. Donc très souvent, je pars le week-end sur un jour et demi pour aller en forêt et me sentir mieux. Et le dimanche soir, quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir pris une semaine de congé. Et ça, j'ai vraiment voulu aussi le faire partager avec mes clients de guide. J'ai souvent des groupes qui viennent avec moi sur des cures, des mini-cures de un jour et demi ou deux jours, et qui travaillent aussi dans des environnements stressants, qui sont en ville et qui me disent ressentir vraiment un bien-être à la fin de ces week-ends, de mieux dormir et de se sentir vraiment complètement déstressé. Je pense qu'il y a aussi l'aspect déconnexion des écrans qui est très important, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus connectés, hein, que ce soit à travers nos ordinateurs dans notre quotidien au travail, à travers les écrans de nos smartphones, à travers les écrans des télés. Donc il y a tout ça génère de la nervosité, on va dire, et le fait de se déconnecter et de se recentrer sur l'essentiel et de retourner à la nature, en forêt, va permettre d'améliorer son bien-être.
Alors un bain de forêt, Laurence, ça se présente comment ? Ça dure combien de temps ? Ça dure deux heures, une demi-heure ? Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors il y a deux formes de sylvothérapie, il y a la douche forestière et il y a le bain forestier. La douche forestière, effectivement, c'est deux heures et demie, où on va passer en fait dans des conifères ou dans des feuillus, ça va dépendre ce qu'on veut. Donc si on veut de l'énergie, par exemple, on va aller dans les conifères. Si on veut quelque chose de plus apaisant, on va aller plutôt vers les feuillus. On ne met pas un enfant hyperactif dans des conifères parce qu'il va avoir un trop-plein d'énergie. Voilà. Le bain de forêt, lui, ça va être plutôt 2-3 jours, effectivement. Et là, au bout de ces 2-3 jours, on va ressentir en fait les bienfaits de la forêt pendant au moins un mois. Donc ça vaut le coup d'y aller.
Alors on va voir comment est-ce que ça fonctionne, puisqu'effectivement, si on est sous les résineux et qu'on capte l'énergie, c'est que ça passe par les phytoncides ou par les terpènes. Vous allez nous expliquer ce que sont ces petites molécules que les arbres nous donnent, juste pour qu'on aille mieux.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
On retrouve nos deux invités, Laurence Mons et Éric Brisbard. Avec vous deux, nous parlons de sylvothérapie. Donc l'arbre nous fait du bien en utilisant les phytoncides et les terpènes. Alors lequel de vous deux va m'expliquer ce que c'est, Laurence ?
Alors il y a effectivement des molécules volatiles dans l'air, donc que les arbres produisent naturellement. Donc il y a les phytoncides, donc les phytoncides sont produits naturellement par les arbres, ni plus ni moins pour se protéger des bactéries et des champignons. Voilà. Donc il va y en avoir pour nous, ça va être on va en profiter dans le bouleau, dans le pin, dans le peuplier, dans l'eucalyptus. Voilà. On en connaît, il y a le pinène par exemple qu'on connaît, hein, et donc qui va aider parce qu'il va être mucolytique, qui va être expectorant. Voilà. Alors, de l'autre côté, il y a les terpènes. Les terpènes, c'est tout ce qui est odeur. Pareil, ce sont toujours des molécules volatiles produites par les arbres. On en trouve dans les racines, on en trouve dans les fruits, on en trouve dans les feuilles. Et là, on va pouvoir se mettre sous les arbres. Effectivement, tout à l'heure, Eric parlait des bains de forêt qu'il y avait dans les sanatoriums, où on allait placer les gens qui avaient des problèmes d'asthme ou des problèmes de tuberculose sous les feuilles pour qu'ils profitent de ça, qu'ils profitent aussi des ions négatifs. Donc les terpènes, en fait, sont très présents dans la masse foliaire. Et on peut les trouver, par exemple, on en connaît dans l'écorce de l'orange. Si vous prenez une orange, vous prenez son écorce, qu'on appelle vulgairement la peau, et que vous pressez, vous voyez des petites gouttes. Voilà, c'est ni plus ni moins l'huile essentielle d'orange. Voilà. Donc, vous avez des arbres qui vraiment sont très, 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 très bons pour nous, pour notre organisme. Il va y avoir le chêne liège, le chêne vert, il va y avoir le hêtre, il va y avoir le châtaignier, et ça, très présent au moment de l'été. Parce que la lumière et la chaleur, en fait, sur les feuilles, va faire une production incroyable de terpènes. Mais il va y avoir aussi les pins, il va y avoir le bouleau, le tremble, l'épicéa aussi, voilà. Donc, si vous avez besoin, effectivement, de terpènes pour mieux respirer, pour avoir cet effet antibactérien, antiparasitaire, pour renforcer le système et système immunitaire, eh bien, mettez-vous au soleil sous ces feuilles.
En fait, Eric, l'arbre, avec les phytoncides et les terpènes, il commence par se soigner lui-même. C'est lui qu'il préserve, et par là même, il nous préserve nous. Mais en fait, lui, ça fait partie de son système immunitaire.
Tout à fait. Donc, l'arbre va sécréter de manière naturelle ses phytoncides et ses terpènes, à la fois pour se défendre des stress extérieurs, hein, ça peut être différents types de stress, ça peut être une maladie, ça peut être des champignons, ça peut être un coup de vent, voilà. Et donc il va aussi utiliser ces phytoncides et ces terpènes pour pouvoir communiquer avec d'autres arbres.
Parce qu'il y a un réseau de solidarité entre les arbres, genre attention, il y a une tempête qui arrive, je te préviens.
Voilà, tout à fait, les arbres communiquent entre eux, hein, comme les humains, et donc ils vont pouvoir... à travers ces éléments-là, pouvoir prévenir les arbres aux alentours qu'il y a un stress ou un danger qui est présent.
Ils communiquent comment, en fait ? Est-ce que ce sont, par exemple, les feuilles, le bruit des feuilles qui va alerter les autres arbres ? Ou est-ce qu'il y a des réseaux beaucoup plus souterrains ?
Voilà, il y a également, en fait, ces réseaux souterrains, hein, donc via le mycélium, hein, via les champignons, qui permettent aux arbres de communiquer via des tout petits filaments blancs qui sont présents. D'ailleurs, si vous retournez des feuilles mortes sur le sol, vous pouvez voir ces petits filaments blancs, donc de mycélium. Hein, donc c'est un mélange entre le mycélium des champignons et les mycorhizes à travers les racines des arbres qui vont se connecter et qui vont permettre aux arbres de pouvoir communiquer entre eux.
Alors, ils communiquent entre eux, entre arbres de la même espèce, où ils sont tellement sympathiques et solidaires qu'ils communiquent à travers toute la forêt. C'est-à-dire que des arbres de on dit essence ou variété
Les deux.
On dit les deux. Donc, des arbres d'essence différentes vont quand même s'avertir de l'arrivée d'un danger.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, le mycélium va pouvoir se disperser et va aller toucher toutes les essences de la forêt. Donc, toute la forêt est connectée, en fait.
Alors, vous dites également qu'il y a plein de choses à prendre dans la forêt, mis à part les feuilles, les racines, les champignons. Vous dites qu'il faudrait penser à se soigner en utilisant les bourgeons d'arbres.
Oui, tout à fait. Donc, il y a une médecine qui s'appelle la gémothérapie, hein, qui consiste à aller prélever quelques bourgeons d'arbres et à les faire macérer dans des solutions alcooliques. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces bourgeons d'arbres, il y a tous les éléments de croissance qui sont utiles à l'arbre, hein, pour pouvoir se développer. Et donc, le fait de macérer et d'utiliser ces bourgeons d'arbres et d'en faire de la gémothérapie, c'est une partie de la phytothérapie, et ça va permettre de pouvoir soigner en profondeur des maux et des maladies, et même de le faire en prévention, donc pour renforcer un organe. Donc il faut vraiment utiliser ça de manière parcimonieuse, hein, et voir ça avec soit son médecin, soit son pharmacien. Mais c'est quelque chose qui se fait, et je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la nature que par exemple l'aromathérapie, parce qu'on va juste prélever des petites quantités, là où pour l'aromathérapie, on va prélever des grosses quantités. Par exemple, pour faire 20 centilitres d'huile essentielle de thym, il faut une tonne de thym, de plantes de thym.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc ça veut dire qu'on va aller récolter des quantités incroyables de plantes dans la nature.
Laurence ?
Oui, effectivement. Donc c'est sylvothérapie, c'est aussi la phytothérapie. Donc on va se servir de tisane, de décoction, de macération, de choses comme ça. En naturopathie, on se sert de tout ce spectre, en fait, de la gémothérapie, de l'aromathérapie. La beauté, effectivement, de la gémothérapie, c'est qu'on va prendre les bourgeons, et là, ce sont les derniers bourgeons qu'on va prendre, parce que déjà ce matin, je voyais les arbres qui commencent à se mettre en fleurs. Quand ils sont en fleurs, c'est déjà trop tard. Parce qu'en fait, au niveau embryonnaire, il y a tout le totum de la tente qui est de la plante qui est à l'intérieur. Et donc, c'est extraordinaire. Donc,
le totum.
Le totum, ouais.
Et qu'est-ce que c'est que le totum?
T-O-T-U-M, c'est-à-dire qu'il y a l'ensemble, toutes les spécificités de
c'est son ADN.
Voilà, son ADN avec toutes les propriétés regroupées, en fait, juste dans le bourgeon. Donc, on va les tremper, effectivement, on les fait macérer dans de l'alcool qu'on va mélanger après. Alors, il y en a qui mettent de la glycérine. Bon, moi, je préfère le sirop d'agave. Voilà. Et donc, on va, avec parcimonie, effectivement, prendre ça. Mais bon, il vaut mieux voir son naturopathe pour ça.
Alors, on ne va pas parler que naturopathie, puisque bien sûr, il y a un élément psychologique avec les arbres. L'arbre est un soutien quand tout vacille. La verticalité de l'arbre et son ancrage puissant au sol nous fournissent à tous des repères.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on retrouve nos deux invités, Laurence Mons et Éric Brisbard. Avec eux, on parle de bains de forêt, de sylvothérapie. On parle également du rôle des arbres en tant que soutien quand tout vacille. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience qui est menée au CHU de Nancy par le docteur Thérèse Jonvaux, qui est neurologue et qui a installé un jardin thérapeutique en 2010. Et de plus en plus, les patients, et tout particulièrement ceux qui n'ont plus de repères, puisque souvent c'est la maladie d'Alzheimer, ils vont se ressourcer, ils vont se remémorer les arbres.
Oui, tout à fait. Donc le docteur Jonvaux a mis en place ce jardin thérapeutique à Nancy, donc au CHU de Nancy, et ils ont fait des études, donc ils se sont aperçus qu'en fait les patients atteints de maladies d'Alzheimer notamment étaient beaucoup moins nerveux et agités le soir et pendant la nuit lorsqu'ils avaient été au contact des arbres dans ce jardin thérapeutique. Donc à la fois ça a été donc prouvé scientifiquement et observé, et puis c'est vraiment utile aussi pour le personnel soignant qui peut aller dans ce jardin pour se reposer aussi pendant son temps de pause.
Laurence.
Oui, effectivement, donc ces jardins thérapeutiques se développent beaucoup, notamment dans les maisons de retraite, mais aussi dans les hôpitaux. Et ils mettent en place des jardinières qui sont très intéressantes parce qu'ils font toucher aux gens par les pieds ou par les mains la terre. Et dans la terre, il y a une bactérie miraculeuse, soi-disant, qui porte le nom de Mycobacterium vaccae et qui développe en fait la sérotonine, donc avec la régulation du sommeil, la dopamine hein, qui vraiment améliore tout le bien-être, hein, c'est l'hormone du bonheur, et puis d'autres hormones comme ça qui font baisser en fait tout le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline donc gérée par les surrénales, donc mettent au repos les surrénales et donc permettent au système immunitaire de se renforcer.
Rien qu'en touchant la terre.
Rien qu'en touchant la terre.
On arrive à fabriquer de cette...
Absolument.
Comment vous l'appelez ?
Voilà. Mycobacterium vaccae, voilà, qui est présente dans la terre.
Alors vous dites tous les deux qu'il faut apprendre bien sûr à nos enfants à respecter les arbres, et vous dites d'ailleurs, l'image elle est très jolie, il faut le respecter comme un petit enfant parce que l'arbre est fragile, et en même temps il faut le respecter comme un ancêtre puisque pour la plupart d'entre eux, certains ont plus de 500 ans, ils ont connu des tempêtes, des incendies, des cicatrices et des hivers très rudes, et ils en gardent la marque. Éric.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut le voir notamment auprès des arbres qui sont multicentenaires, cette force et cette majestuosité. Et on peut comparer ça à, comme nos ancêtres hein, qui ont développé tous des savoir-faire et dont on a beaucoup à apprendre aujourd'hui. Et ces arbres sont vraiment pour ça des arbres majestueux. Et maintenant, on met de plus en plus en avant ces arbres quasiment comme des monuments hein, dans les villes aussi. Hein. On les met en valeur un peu comme des monuments.
Alors, ce qui est intéressant aussi avec les arbres, c'est qu'on en apprend de plus en plus sur eux. Et par exemple, on s'est rendu compte que comme il ne peut pas fuir, l'arbre a mis en place une sorte de usine chimique qui lui permet d'éloigner les indésirables. Et Laurence, vous expliquez par exemple que les cyprès, quand ils sont dans une température qui dépasse les 60 degrés, vont se transformer eux-mêmes en une sorte d'immense poche d'eau, c'est ça ? oui. pour réussir à éteindre l'incendie.
Voilà, ils se protègent eux-mêmes. Et chaque arbre ou plante a sa spécificité. Hein. Le noyer, par exemple, produit le juglon, hein, le juglon qui est une espèce d'acide, une espèce de désherbant qui empêche complètement les autres arbres de pousser autour de lui. Voilà, il y a la plante du tabac. Hein. C'est pas un arbre, mais ça marche exactement de la même façon, qui produit de la nicotine pour les faire fuir, ou bien de l'éthanol. Hein. On a vu en Afrique du Sud, effectivement, des koudous, donc des espèces d'antilopes, qui mouraient parce qu'il y avait trop d'éthanol. Et donc l'éthanol passait d'arbre en arbre, en fait, comme un message olfactif.
C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre empoisonnait
les feuilles pour se protéger et donc passer le message par le vent, par le biais du vent, en fait, produisait encore plus d'éthanol qui, par le vent, passait d'arbre en arbre pour donner, en fait, le signal d'alerte aux autres arbres pour se protéger.
Éric.
Voilà, on retrouve un petit peu la même chose sur le hêtre, hein, donc qui va garder, en fait, les feuilles après l'automne sur ses branches. Et en fait, la pluie qui va couler à travers ses feuilles va se répandre des particules toxiques au sol et qui va empêcher les autres graines, autres que celles du hêtre, de pouvoir germer au printemps.
En fait, ils ne sont pas que sympas. Hein hein, ils sont pas... Bon, tout à l'heure, on expliquait qu'ils étaient très solidaires, les arbres dans une même forêt communiquaient entre eux, mais il n'empêche que c'est eux d'abord.
Voilà, ils défendent leurs espèces, hein, leur espèce en premier.
Alors, vous parlez également dans votre livre de majorité sexuelle pour les arbres. Et par exemple, c'est en vous lisant que j'ai appris que le chêne devait attendre 60 ans pour avoir sa majorité sexuelle. Ça veut dire quoi? Jusqu'à 60 ans, il ne se reproduit pas?
Exactement, c'est ça. Jusqu'à 60 ans, il ne se reproduit pas.
Et donc, s'il lui arrive quelque chose, il meurt?
Oui, tout à fait. Donc, s'il lui arrive quelque chose, il va mourir. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle humaine, ça peut paraître énorme. Mais à l'échelle d'un arbre, bon, on peut...
C'est très jeune.
Oui, voilà, c'est quasiment très jeune.
On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler des arbres. Je voudrais vous signaler que du 22 au 24 juin prochain, à l'Hippodrome de Longchamp, Europe 1 participe et présente les Solidaises et que dans la programmation cette année, il y aura plein de monde. Il y a Chaka Ponk, Nekfeu, Eddy de Pretto, Big Flo et Oli. Et il y aura surtout Juliette Armanet.
La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin.
Et on parle une dernière fois de sylvothérapie. Où que l'on soit en France, on est à moins de 30 km d'une forêt. Alors si on est vraiment fatigué, qu'on n'a pas envie de bouger, est-ce que l'on peut, Laurence, faire entrer un peu de forêt chez soi?
Et oui, et c'est même conseillé. Donc j'ai tout un chapitre là-dessus dans mon livre où j'explique pas à pas, vous pourrez le lire, comment faire entrer la forêt chez soi. On va en forêt et on va aller ramasser des mousses, des branches. Alors on prend pas sur les arbres, on prend des choses qui sont déjà au sol, c'est mieux, il y en a déjà quantité, des pommes de pin. Et quand on rentre à la maison, eh bien on fait un coin nature. Et ce coin nature, eh bien les parents, je vous conseille de poser dessus des loupes, des crayons, des cahiers, tout ça, des petites boîtes où les enfants vont pouvoir en fait fabriquer des petits objets et puis aller regarder avec la loupe et tout ça comment découvrir en fait la nature chez soi. Il y aura toutes les odeurs, quand on prend de la mousse, on sent les odeurs. Et voilà, c'est un moyen en fait très très concret. Et on peut faire aussi des terrariums, c'est-à-dire on prend un pot et on fait de jolies constructions végétales.
Éric.
Voilà, une autre manière aussi d'intégrer la forêt chez soi, c'est aussi pour améliorer notre santé. Bon, il se fait des lits en bois de pin sandreau.
Et
il
y a des études. En bois de
pin sandreau. Donc il y a des études en Autriche qui ont été réalisées et qui ont démontré que le sommeil était amélioré et que le rythme cardiaque et la pression artérielle baissaient lorsqu'on dormait dans ces lits en pin sandreau.
C'est un bois qui ressemble à quoi?
C'est un bois qui pousse en montagne, donc c'est un arbre qui pousse en montagne, hein, pin sandreau. Il y en a quelques-uns dans les Alpes, hein, en France, hein, il y en a encore, et notamment dans le Queyras, dans le massif du Queyras, qui est un parc naturel régional. Donc ça peut être une manière de faire rentrer la forêt chez soi. Il y a ça, on peut aussi, en Allemagne, il y a eu des couettes ou des oreillers qui ont été faits avec des épines de pin. Donc tous ces éléments sont bons pour la santé et c'est une manière de faire rentrer la forêt chez soi.
Alors merci à tous les deux de nous avoir fait partager votre passion pour la sylvothérapie. Merci Laurence Mons et merci Éric Brisbard. Excellente sortie pour votre livre demain. On se retrouvera demain pour parler nous de nos émotions, apprendre à bien vivre avec. Et je recevrai Isabelle Filiosia qui est psychothérapeute. Faire de nos émotions des forces, on en parle demain à 15h. À 17h aujourd'hui, vous retrouvez Thomas Touroud et toute son équipe pour Y'a pas péno. Mais tout de suite, suite, c'est Christophe Ondelatte et ses chiens de traîneau que l'on va retrouver. Bonjour Christophe.
Mes célèbres chiens de traîneau.
Lydie Tarode, c'est le rêve.
Oui, c'est la dernière course de Nicolas Vanier. Voilà, il nous a fait rêver pendant des décennies avec ses courses en chiens de traîneau dans le Grand Nord. C'était la dernière, c'était il y a pile un an. Il est arrivé au bout, il a fini 36e sur 72 et depuis il a raccroché, il est passé à autre chose, il nous dira d'ailleurs à quoi puisqu'il est là avec moi.
Excellente émission à tous les deux.